totalement dissimuler leur lien d'intérêt. Ça va chercher des sanctions pénales. On voit le ministère ne lancer aucune enquête, aucune instruction sur les défaillances de ses conseillers. Et par contre, aller requérir la force publique pour forcer des gens. Moi, si ça se trouve, demain, je vais recevoir un ordre de réquisition.
Vous n'êtes pas encore vacciné ?
Ah non, bien sûr, je suis pas encore vacciné, pas près de l'être. Mais bon, on a déjà un ministère qui a été assez bête pour acheter des vaccins avant qu'ils ne soient fabriqués, qu'ils ne soient disponibles, pour les payer le prix fort au terme d'un processus décisionnel où on ne sait pas distinguer entre l'incompétence d'une part et ce qu'il faut bien appeler la corruption, hein. Et puis, une fois qu'on a ce stock sur les bras, comme il faut le liquider, eh bien, on va chercher la force publique, non pas pour diligenter les enquêtes qui s'imposent sur la façon dont on a pu en arriver à cette aberration, mais pour forcer des infirmières, des médecins à assurer la liquidation des stocks. C'est un scandale sans nom.
Mais c'est une grippe terrible aussi, la grippe porcine, le H1N1, la grippe mexicaine. C'est tellement terrible qu'elle a trois noms, non ?
Là, je vais m'abriter derrière l'autorité de quelqu'un qui passe pas ni pour un communiste ni pour un anarchiste, qui est Bernard Debré, qui dit c'est une grippette. Il y a d'abord, grand 1, je suis pas un spécialiste de la grippe. Bon. Par contre, je vais quand même chercher dans les données disponibles et je me demande où sont les preuves que cette grippe est grave. D'ailleurs, on commence à avoir les données de l'hémisphère sud qui termine sa saison grippale et on voit bien que par rapport aux années précédentes, ben, il y a eu moins de cas graves.
Vous voulez dire qu'il y a eu moins de morts de la grippe dans l'hémisphère sud cet hiver,
oui,
que les années où il n'y a pas de grippe porcine?
On a les données, par exemple, de l'Australie. L'Australie, ce n'est pas un pays de sauvages. Et on voit bien que par rapport aux années précédentes, il y a eu moins de problèmes. Ce virus contre la grippe, il est pour l'instant très bénin. Alors que ça puisse devenir un monstre, oui, d'accord, mais c'est vrai avec n'importe quel virus de la grippe. Donc là, il y a vraiment eu un alarmisme téléguidé dont l'origine est très facile à reconstituer. On sait très bien que depuis des années, l'industrie pharmaceutique a décidé de se refaire une santé sur le secteur vaccinal, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à développer des nouveaux médicaments aussi géniaux que ceux qui faisaient mon admiration autrefois.
Comme ils n'arrivent pas à développer des médicaments contre les maladies qui existent, oui, ils développent des médicaments contre les maladies qui pourraient exister.
Ah ben ça, c'est un truc vieux comme le monde. On a quand même l'aveu explicite d'un responsable de Beecham que le souci de l'OMS par rapport à une maladie comme l'hépatite B, par exemple, a été totalement induit par les commerciaux de l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que l'hépatite B n'est devenue un problème de santé publique qu'à partir du moment où les commerciaux de l'industrie pharmaceutique ont voulu faire dire aux gens de l'OMS que c'était un problème de santé publique. Et on savait très bien, moi je le savais depuis le début des années 2000, que l'industrie pharmaceutique allait agir sur l'OMS pour faire de la grippe un problème de santé significatif, parce que l'intérêt du vaccin contre la grippe, c'est le seul vaccin que vous pouvez réinjecter tous les ans.
Ah oui, parce que là, le chiffre d'affaires, il se renouvelle tous les ans.
Eh ben oui.
Tandis qu'avec les autres vaccins, c'est une fois pour 7 ans ou une fois pour
voilà,
toute la vie.
Voilà, oui, tout à fait, c'est ça.
Parlez de résistance. Votre site, c'est rolandsimion.org. Rolandsimion.org. J'ai vu que c'était l'un de vos oncles.
C'est un garçon qui a refusé le STO, le service du travail obligatoire, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est rentré dans le maquis et il a été le dernier résistant d'Evreux. Il a été fusillé la veille de la libération. Il avait juste 20 ans. Et c'est vrai que, quelque part, c'est un modèle de résistance, oui. Alors bon, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part de me mettre sous la mémoire de ce garçon, parce que lui, il a risqué sa vie. Bon, moi, franchement, 12 balles dans la peau, j'y crois pas. Enfin, faut pas être parano. Donc, ce que je fais, d'une certaine façon, est peut-être un peu moins dangereux. Mais en même temps, je reste quand même relativement sidéré de l'extraordinaire pusillanimité des gens. Moi, je vois des collègues avec qui j'ai eu des relations d'amitié professionnelle pendant 20 ou 25 ans. Aujourd'hui, c'est tout juste s'ils osent me serrer la main, quoi. Alors que je vois pas Glaxo ou Aventis licencier quelqu'un parce que un employé aura été pris faisant un sourire au docteur Gérard. Faut quand même pas exagérer, si vous voulez. On vit quand même pas. C'est quand même pas le goulag, quoi. Mais les gens s'inventent un niveau de risque aujourd'hui. Alors c'est vrai que quand je compare à mon pauvre oncle, je me dis, mais dans quel monde vit-on, quoi ?
Merci à tous. Le titre du bouquin du docteur Marc Girard, c'est « Alerte grippale ». aux éditions d'Angle. C'était un reportage.